commence avec le premier sujet de ce journal. Une étude publiée dans la revue Nature apporte de nouveaux éléments sur l'origine de la marche.
Les origines de la bipédie, c'est l'un des grands mystères de l'évolution. Une des hypothèses est qu'il existait une forme de bipédie bien avant la bifurcation chimpanzé-humain. Mais il restait encore à le prouver. Une équipe allemande vient de découvrir les fossiles d'une nouvelle espèce de singe, baptisée Danuvius guggenmosi. Ces ossements sont vieux de plus de 11 millions d'années, soit 4 millions d'années avant l'apparition des premiers représentants du genre Homo. Ces fragments de crâne, de tibia, de fémur, de mains et de bras ont permis de rétablir les proportions de l'animal. La morphologie de ses jambes montre qu'il pouvait se déplacer debout. C'est à ce jour la plus ancienne preuve de bipédie chez un primate. Gilles Berillon est directeur de recherche CNRS et travaille au laboratoire Histoire naturelle de l'homme préhistorique au Musée de l'Homme à Paris.
C'est tout l'intérêt de cette découverte, je pense, c'est que on a sur ce squelette des éléments qui attestent d'une forme de bipédie. Voilà, on a un fossile de 11 millions d'années à peu près, qui a des traits qu'on retrouve, qui font dire qu'il avait une posture, un équilibre, une marche bipède possible. Un de ces traits, on le voit, c'est assez marqué sur le tibia. Et la morphologie de l'articulation du genou et de la cheville de ce tibia sont très dérivées, c'est-à-dire qu'elles ressemblent beaucoup à une morphologie, on va dire, hominine, qu'à une morphologie de chimpanzé ou de gorille ou d'orang-outan.
Dans cette étude, il suggère que cette espèce de primate était donc capable de marcher sur ses deux jambes et aussi de pouvoir se déplacer sur des branches. Est-ce que ça peut aussi suggérer qu'il aurait pu être le dernier ancêtre commun des grands singes et des humains?
En l'état actuel des connaissances, c'est un bon candidat. Ce qui le rend intéressant, enfin un candidat potentiel à l'ancêtre des humains et des chimpanzés, c'est qu'il a au niveau de son anatomie locomotrice et de ses membres postérieurs des éléments qui le tirent un peu plus vers la bipédie telle que nous la pratiquons.
En bref, on connaît plus précisément la taille du proton.
Et il est plus petit que prévu. Le problème de la taille du proton, un problème de physique nucléaire, fascine les physiciens depuis 2010. Une équipe internationale vient d'en obtenir la mesure la plus précise à ce jour. Lors de leur dernière expérience, appelée PRAD, ils ont utilisé un calorimètre électromagnétique qui mesure les différents niveaux d'énergie des particules pour parvenir à ce résultat. Le rayon d'un proton est de 0,831 femtomètres. Les détails de l'étude sont à retrouver dans la revue Nature.
En bref, toujours, selon une étude parue dans Nature, Ecology and Evolution, l'origine de la vie pourrait provenir des profondeurs des mers.
Et plus exactement, la vie pourrait provenir des cheminées hydrothermales. Une équipe britannique apporte de nouvelles preuves expérimentales. Elle a reproduit en laboratoire les conditions similaires de ces fissures hydrothermales et elle a réussi à créer des protocellules capables de s'auto-assembler. Les températures chaudes, les niveaux de pH élevés et la salinité n'empêchent pas le développement de ces protocellules. Bien au contraire, ces conditions stimulent le développement de ces éléments clés du vivant. Ce travail met au défi l'une des principales théories de Darwin, selon laquelle la vie serait d'abord apparue dans des flaques d'eau peu profondes.
On poursuit avec le deuxième sujet de ce journal. Une nouvelle étude parue dans Nature apporte de nouvelles prévisions sur la hausse du niveau des mers.
Et c'est une étude de paléoclimatologie menée par une équipe australienne. Avoir une meilleure compréhension des mécanismes géologiques passés, cela permet de mieux anticiper les phénomènes à venir. Cette étude retrace l'évolution du niveau des mers pendant la période interglaciaire qui a eu lieu il y a environ 130 000 ans. Dans des caroctages marins, ils ont observé la composition isotopique des carapaces de plancton fossile, ce qui donne des indications au changement de la composition isotopique des océans, qui elle-même est reliée à la quantité de glace. Et d'autre part, ils ont fait l'analyse du niveau des mers relatif, visible sur les côtes. On sait que le niveau des mers était entre 6 et 9 mètres au-dessus du niveau actuel. Grâce à cette reconstitution, on comprend mieux pourquoi. Catherine Ritz est chercheure à l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble. Elle est spécialisée dans l'évolution des calottes polaires.
Une des questions qu'on se pose quand on regarde le niveau des mers, on sait que c'était 6 à 9 mètres au-dessus de l'actuel, mais on a du mal à démêler ce qui est lié au Groenland et ce qui est lié à l'Antarctique. Et en fait, les processus ne sont pas les mêmes. Donc c'est très intéressant d'avoir des meilleures datations, parce que les meilleures datations donnent accès à des informations sur les processus. Dans cet article, il semble que l'Antarctique ait été le précurseur, ait été la première calotte qui a eu des variations, avec des variations rapides, avec des variations du niveau des mers de l'ordre du mètre par siècle, ce qui est pas mal. On subodorait déjà ça, mais là, cet article donne des variations beaucoup mieux datées, donc avec une meilleure représentation de la variabilité. Et ce qui est intéressant, parce que ça nous dit de combien le niveau des mers peut monter en combien de temps.
Ce que dit aussi ce papier, c'est que l'Antarctique a été considéré comme un géant endormi de l'élévation du niveau de la mer.
Ah oui, pendant longtemps, on pensait même que l'Antarctique, dans le cadre d'un réchauffement climatique, prendrait de la masse parce qu'il neigerait plus. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait des processus mécaniques d'accélération des glaciers qui faisaient qu'en fait, même en ce moment, l'Antarctique perd de la masse à cause de ce processus et que c'est le processus qui est le plus mal contraint parce qu'on n'a pas beaucoup de données. C'est celui qui pourrait donner les contributions les plus grandes aux variations du niveau des mers dans le futur. C'est la plus grosse incertitude sur le niveau des mers pour les siècles à venir, c'est l'Antarctique.
Pour la première fois, des vents interstellaires ont été directement observés.
Et les chercheurs de l'Université de Californie à San Diego ont même modélisé cet immense flux interstellaire. Vous pouvez voir cette reconstitution sur le fil Twitter de la méthode FC. C'est une observation faite grâce au Keck Cosmic Web Imager, le spectrographe de l'observatoire Keck installé à Hawaï. Ces vents cosmiques proviennent de la galaxie Makani, une galaxie née de la fusion de deux galaxies. La formation d'étoiles de grande densité peut propulser des vents rapides capables de s'étendre jusqu'à plus de 163 000 années-lumière du centre de la galaxie.
En bref, toujours, dans The New England Journal of Medicine, un nouveau vaccin contre la dengue est sur le point d'aboutir.
Et le virus de la dengue transmis par les moustiques touche environ 500 000 personnes chaque année et peut provoquer la mort des jeunes enfants. Suite à des complications, le dernier vaccin en date a dû être arrêté. Et là, le groupe pharmaceutique japonais Takeda rapporte les résultats positifs d'un essai clinique de phase 3. Il a été testé sur plus de 20 000 enfants et il serait efficace à 80% dans la prévention des infections. Si aucun risque de sécurité important n'a été observé, les auteurs reconnaissent qu'ils doivent poursuivre de nouveaux tests afin de déterminer son efficacité.
Enfin, cette semaine dans le journal des sciences, Natacha, nous avons vu que pour traiter la dépression, la luminothérapie serait aussi efficace dans certains cas que les antidépresseurs. Nous avons parlé du projet du gouvernement de généraliser la surveillance de masse via les réseaux sociaux. Il a aussi été question d'un casse-tête cosmologique. L'univers est-il plat ou rond? Nous avons enfin parlé des analyses d'un échantillon de glace vieux de 2 millions d'années. Et enfin, cette semaine, dans l'actualité des sciences, Natacha, en ultra bref.
Cette semaine, une première médicale avec le succès de la première greffe de pénis, de scrotum et de parois abdominales inférieures. Un an plus tard, l'opération est réussie. Le patient qui avait été mutilé par une explosion n'a rencontré par la suite aucune complication. Toutes ses connexions nerveuses se sont rétablies. Et enfin, le programme international SETI et le satellite TESS de la NASA viennent de signer un accord. SETI, qui est spécialisé dans la recherche d'une vie extraterrestre, va fournir au satellite une liste de 1000 exoplanètes à observer de plus près.
Et comme chaque vendredi, on termine ce journal par la rubrique d'improbablogie. Les chercheurs du MIT développent une intelligence artificielle capable d'analyser, les excréments.
Alors la campagne de recherche s'appelle « Give a shit for science », traduire « Donnez votre caca pour la science ».
Vous êtes poli.
Les internautes sont invités à envoyer des photos de leurs selles. C'est anonyme et l'objectif est de constituer une base de données de plus de 100 000 images. Elles seront ensuite analysées par les gastro-entérologues. Le but est de créer un algorithme capable de diagnostiquer les problèmes intestinaux. Vous pouvez donc envoyer vos photos à seed.com/poop.